Quand je me suis installée à Dieulefi, dans la Drôme, un mot est vite arrivé à mes oreilles. Ce mot, c'est Réjobert. Il surgissait dans maintes conversations, vieux serpent de mer plein de mystères. Tantôt sujet de rumeurs, de moqueries, de colère ou de résignation. Réjobert, c'est un parc de 35 hectares qui comprend un petit lac, une ferme, une maison bourgeoise et un immense complexe hôtelier, fait de plusieurs immeubles, avec salle de conférence, terrain de tennis, piscine intérieure et extérieure. Ce lieu, je l'ai toujours vu vide, et les Dieulefitois m'en parlent comme d'un endroit désert depuis plus de 10 ans. En se rapprochant des bâtiments, on pouvait y voir les sommiers, les matelas, les tables de nuit, les placards, les rideaux, attendant je ne sais quel client. La piscine vide, au bleu décoloré, attendait je ne sais quelle soirée d'été. Tourner autour de ce fantôme ne me suffisant plus, j'ai décidé d'aller écouter ceux qui pouvaient me parler de Réjobert.
Alors, je m'appelle Julien Muard. Donc, moi, je suis ici pour une durée de 3 mois pour aider à l'ouverture des sources de Dieulefi. Et après ça, en fait, je vais repartir dans un hôtel que je manage à l'étranger.
Alors, donc là, on est à l'accueil.
On va aller sur la terrasse. Donc voilà, là on a la piscine extérieure,
ouais.
Avec la terrasse, là. Là on a un des bars de l'hôtel.
Qui s'appelle Les Rouvières.
Et voilà. Alors il va s'appeler le bar Émilie. Alors voilà les chambres. Tout a été refait, il ne reste rien de l'époque du Club Med. On a refait toutes les salles de bain, toilettes, nouveaux lits, nouvelles décorations. Donc non.
C'est sympa.
Là, on voulait vraiment s'orienter sur une décoration très zen, très naturelle en fait. Donc du bambou, du bois. La salle de sport. Donc voilà, la piscine intérieure.
C'est un énorme hôtel. Hein.
Ah, et là, je vous ai pas tout montré.
Non, mais, je pense bien.
Alors, je suis Jean Morin. Voilà, j'ai 93 ans,
oui.
Mais j'ai encore, Dieu merci, toute ma tête.
C'est parfait.
Et je suis le descendant le plus âgé de la famille Morin. L'ancêtre, si je puis dire, était un Adolphe Morin, qui est mon arrière-grand-père. Il avait un frère, Auguste, qui était dans les affaires à Paris au XIXe siècle. Et ses fils, ils ont accumulé pas mal d'argent. Et grâce à ça, ils avaient la propriété de Réjobert, qui étaient les meilleures terres à blé de Dieulefi, enfin à céréales de Dieulefi.
Justement, ça ressemblait à quoi? Il y avait la maison bourgeoise rose qui est au milieu et la ferme qui est sur le côté. Il y avait les deux bâtiments ou pas?
Alors, il y avait surtout la ferme. Et une fois les fortunes faites, un des Morins a fait construire ce qu'on appelle le château. Et alors, ils ont planté des arbres, et en particulier des sapins ou des pins. Et alors, les Diulfitois disaient, en trouvant scandaleux qu'ils aient transformé ces terres agricoles en parcs de plaisance, ils disaient « Meritarian de manja de cacaracu ». Ils mériteraient de manger des pommes de pin. Parmi les descendants des premiers Morins, il y avait une dame qui s'appelait Odette. Odette Morin, elle était bonne comme tout et elle s'occupait des enfants et des personnes en difficulté à Diulfi. Et alors, elle a convaincu ses frères de faire une facilité et en 1947, donc après la guerre, ils ont vendu à un prix très raisonnable la propriété à une maison d'enfants de Lyon. Ces enfants qui étaient des enfants des villes qui souffraient des bronches en particulier et qui étaient soignés à Diulfi sous l'égide d'un docteur de Diulfi qui s'appelait le docteur Préau et qui était spécialisé dans les maladies des bronches.
Alors, je m'appelle Jean-Yves Brunier et je suis instituteur retraité. Et dans ma longue carrière, j'ai travaillé pendant 8 ans à Réjaubert. Je suis arrivé en janvier 1975 et je suis parti en juin 83. Pour moi, dans mon souvenir, c'était un immense parc de 50 hectares. Magnifique, avec le château où il y avait les services administratifs, techniques, la cuisine, les réfectoires, le médical et les maternelles et CP. Il y avait chez Dorge, qui est la ferme au-dessus du château, où il y avait les adolescents. Et puis deux chalets en bois qui s'appelaient Champ de Cigales et Champ d'Oiseau, et dans lesquels il y avait les salles de classe, les dortoirs, des cuisines, des salles à manger, enfin tout, pour recevoir les groupes d'enfants. En fait, pour l'histoire, puisque c'est ça qui t'intéresse, je crois, c'est après la libération, un certain nombre de mouvements qui étaient issus de la résistance ont créé des structures pour prolonger leur expérience et mettre en place des structures pérennes. Alors il y a eu la MAIF, il y a eu la MGEN, et il y a eu plein d'autres comme ça, créations d'institutions. Certaines sont restées, pas d'autres, issues des mouvements de la résistance en fait. Alors la particularité donc de Réjaubert à l'époque, c'est qu'il n'y avait que des enseignants de l'éducation nationale. Il y avait une convention passée entre l'éducation nationale et la structure œuvre des villages d'enfants pour que les enseignants face aussi au fils d'éducateur. Et puis, quand même, le recrutement des enfants malades asthmatiques et bronchitiques a beaucoup évolué dans la même période où moi j'étais, c'est-à-dire dans les années 80, parce que la médecine de ville a évolué, parce que les mentalités des parents ont évolué aussi, c'est-à-dire que les parents n'acceptaient plus de laisser leur enfant dans un internat, même si c'était pour son bien, entre guillemets. Les médecins généralistes de proximité ont été mieux formés. Il y a eu la Ventoline qui a permis de répondre aux besoins d'urgence, disons, des crises d'art. Enfin, il y a eu toute une évolution et il y a eu de moins en moins d'enfants. Petit à petit, tous les postes ont été supprimés. Les enseignants ont pu être intégrés dans les écoles de Diulfi, en maternelle ou en primaire.
bout d'un moment, ben, il n'y a plus beaucoup d'enfants. Et donc, l'œuvre des villages d'enfants a décidé de fermer. Et donc, à l'époque...
À la fin des années 80.
Il y a un monsieur de Dieulfi, qui s'appelle monsieur Sitars. Il connaissait des investisseurs qui cherchaient un endroit pour créer un hôtel. Et donc, c'est un groupe, c'était pas Club Med à l'époque, hein, c'est un groupe qui s'appelait Tanit International, qui donc a acheté et donc a construit un hôtel.
Je contacte Magali Chazot, archiviste de la communauté de communes Dieulfi-Bourdeaux, et je l'interroge sur les travaux réalisés par Tanit International. Voici sa réponse par mail. Grâce à ma collègue, j'ai pu retrouver les permis de construire qui nous manquaient. En 1987, la SGI du domaine de Réjobert dépose un permis. En mai 1989, la société demande à ce que ce permis soit transféré au nom de Batimat Sikomi. Deux autres permis sont également pris sous cette dénomination. Sur le contrat d'entreprise général sont nommés la société Batimat Sikomi, la société Batical et la société SCI Réjobert. Chose étrange, Tanit International n'apparaît nulle part. Suite à ce mail, je continue de fouiller le net concernant la construction de l'hôtel et sur le site mémoiredrome.com, je trouve une photo où l'on voit des hommes cravatés couper le ruban de ce qui est appelé un centre de remise en forme. La photo est datée du 15 juin 1990. Sont présents de nombreux hommes politiques de la région et François Guénaud, président-directeur général du groupe Tanit International. Magali Chazot me dit que cette photo que j'ai trouvée est le seul document à sa connaissance où est mentionné le nom de cette société.
Et ensuite, cet hôtel, il a été vendu au Club Med.
Ce qui veut dire que c'est le groupe Tanit International qui a construit la piscine et les bâtiments qui sont autour.
Et ils ont gardé le château, ils ont gardé la partie haute pour faire les logements des employés, etc. Et donc, ils ont ouvert cet hôtel. Bon, honnêtement... Je pense que, enfin, quand ils ont construit le truc, c'était pas très bien pensé. Je saurais pas expliquer, vous savez, le monde des affaires. Voilà, c'est des mouvements qui existent. Il y a des gens qui ont de l'argent à placer, donc ils le placent à un moment. Enfin, effectivement, il y avait, semble-t-il, derrière aussi des Saoudiens qui avaient contribué à financer. Mais bon, peu importe. Enfin, je veux dire, voilà. Et donc ensuite, c'est Club Med qui a acheté et Club Med qui a exploité. Donc ça, c'est en 95, si je me trompe pas. Alors, donc, moi, je suis Christine Priotto. Je fus le maire de Dieulfi pendant 12 ans.
Le Club Med rachète ce lieu et l'exploite sous cette forme.
Donc là, ça a été un peu les grandes années, parce que, peut-être plus 94, parce que du coup, bon, c'était l'image Club Med très forte. Le monde vous parle de l'époque où forcément, Club Med, ils organisaient des soirées, des trucs, c'était le lieu à la mode, tout ça, bon...
Qui était le public de ce Club Med? Parce que moi, on m'a dit que c'était plutôt tourisme vert, mais est-ce que c'est vraiment ça?
En fait, c'était plutôt... Enfin, en gros, c'est aussi pour ça qu'ils ont fermé, c'est pour ça que j'y viendrai, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont au Club Med, c'est un peu jet set, c'est-à-dire ils veulent la boîte de nuit, les boutiques, machin. Bon, à Dieulfi, il n'y avait pas ça. Donc, en fait, c'était plutôt justement une clientèle qui venait chercher du calme, de la nature, donc plutôt d'un certain âge, voilà. Et donc, ça vit pendant plusieurs années. Donc, c'est des gens qui ont de l'argent, donc c'est bien aussi parce qu'ils vont acheter des poteries, des trucs. Et puis, il y avait une chef de village qui s'appelait Arlette, que d'après ce que j'en sais, que c'était une femme super, parce qu'elle était assez exubérante, elle faisait des fêtes incroyables. Et donc, arrive 2004, et là, le Club Med donc, finit la saison. Ils vont voir le maire de l'époque, ils disent « on va fermer ». Ils vendaient, de mémoire, 13 millions d'euros. Donc, ça faisait vraiment une énorme somme. Donc, alors moi, comme j'étais pas maire, j'avais pas toutes les infos, mais j'essayais un peu de savoir ce qui se passait. Donc, je savais qu'il y avait des gens qui venaient, qui étaient intéressés, mais qui disaient que c'était trop cher. Exemple, j'ai su, et j'ai eu confirmation après, qu'il y avait, par exemple, Pierre et Vacances, qui avait proposé 5 millions d'euros. Donc là, on a vu tout arriver, des Russes qui disaient « on arrive, on va acheter », puis finalement, qu'achetez pas.
«
je vous passe tous les détails, hein, mais j'ai tout eu. J'en avais qui voulaient ouvrir des centres Krishna, des centres plus ou moins naturistes, échangistes, je ne sais pas quoi. Enfin, j'ai tout eu. Puis alors, tous les mois, il y avait plein de rigolos, des mythomanes. Alors, c'était compliqué parce qu'il fallait discerner le mythomane du pas mythomane, quoi. Moi, là-dessus, donc, ben, ça traînait. Enfin, ça avançait pas. Donc, moi, en 2008, je suis élue maire. Je dis maintenant... Enfin, faut se bouger, quoi. Faut faire quelque chose. Donc, je suis montée à Paris. Je suis allée voir les directions de Club Med. Je leur ai dit, c'est trop cher. Il faut que vous vendiez votre truc. Là, il est en train de dépérir. C'est dommage. Et là, là-dessus arrive Monsieur Ben Saïd, là.
En 2013.
Où on nous dit, ça y est, on a trouvé un acheteur et tout. Bon, ben super, très bien. Alors moi, je mange avec eux. J'essaye un peu de voir c'était quoi ce groupe. Honnêtement, j'ai toujours pas compris.
Voilà. Monsieur Ben Saïd, fondateur de Doctegestio. Qui est cette société qui fait à la fois de l'hôtellerie, de la santé.
Doctegestio, c'est 12 000 salariés, 331 établissements et services et 560 millions de chiffre d'affaires.
Je sais pas trop quoi dire parce que c'est un peu étonnant. Et de toute façon, je veux dire, moi, je pouvais pas m'opposer à ce qu'ils achètent ou ce qu'ils achètent pas. Donc, moi, tout ce que j'ai fait, c'est les encourager. Donc, là, au début, dans le projet qu'il m'a présenté, c'était énormissime. Hein. C'était on va tout refaire, on va faire machin truc. Bon. Donc, ils ont acheté, je peux le dire, finalement, une paille par rapport aux 13 millions d'arrivées, puisque, à ma connaissance, ils ont acheté 3 millions d'euros. Donc, ils auraient mieux fait, entre-temps, de vendre à Pierre et Vacances à 5 millions. Hein, mais bon, voilà. Et du coup, grande déclaration, on va ouvrir tout ça. Donc, nous, on les reçoit en mairie. Enfin, voilà. Bon. Rien se passe. Première année, rien se passe. Deuxième année, rien se passe.
En octobre 2016, l'État français décide d'évacuer le plus grand bidonville de France, camp de réfugiés informels, surnommé la jungle de Calais. Plus de 7000 personnes... venus du Soudan, d'Afghanistan, d'Érythrée et d'Éthiopie, sont invités à monter dans des bus, puis répartis dans tout le pays, dans des centres d'accueil et d'orientation pour se reposer et permettre aux autorités de faire un état de leur situation administrative. Ces CAO sont des lieux trouvés en urgence par les préfectures, lieux d'hébergement vides, que l'État loue temporairement pour gérer ce moment très particulier de la politique migratoire du pays.
Je voulais vous questionner aussi sur le moment du démantèlement de la jungle de Calais, puisque à ce moment-là, le préfet de la Drôme, vous avez été en contact avec lui ?
Alors en fait, le sous-préfet, à l'époque, est missionné pour trouver des logements un peu partout dans la Drôme et tout ça. Et moi, j'ai réfléchi 5 minutes, je me dis, allez, tant pis, je tente. Donc je lui dis au sous-préfet, je dis, monsieur le sous-préfet, pourquoi vous appelleriez pas le directeur ? Moi, je vous donne son numéro. Monsieur Ben Saïd, c'est quelqu'un qui est ouvert, qui est très touché par justement l'histoire de Diolfi pendant la guerre et tout ça, y compris ça a fait partie de son choix d'acheter et tout ça. Vous l'appelez, et puis vous verrez bien ce qu'il vous répond. Peut-être qu'il sera intéressé d'avoir un peu d'argent qui rentre, parce que l'État avait des moyens pour louer et tout. Et donc ça s'est fait, mais le sous-préfet m'a dit qu'il voulait trop cher. Voilà. Donc voilà comment ça s'est pas fait en fait. Ils avaient fait venir un directeur là qui était adorable, qui s'appelait Alexandre. Super, et le problème c'est qu'au bout de 2 ans, il vient me voir et il dit écoutez, moi je m'en vais parce que comme il se passe rien, ben, je m'ennuie et donc il bosse dans un domaine hôtelier là-bas. Bon, voilà. Et donc, bon, arrive un autre nouveau directeur, là, celui qui est là, monsieur Gamba. Bon, et puis monsieur Gamba il dit mais vous allez voir, on va faire des travaux. Et là, ils commencent donc à faire des travaux, mais vraiment, on va dire, de artisanaux, quoi, avec leurs propres moyens. Parce que quand même, tout le temps, il y a toujours eu des salariés là-bas. Il y a ceux qu'on connaît bien, parce qu'ils sont depuis l'origine, Christian Tribou et son collègue là, qui s'occupent de l'entretien du parc et tout. Donc, ils ont rénové les piscines, ils ont rénové la façade, ils ont rénové les chambres. Moi, il y a 2 ans, je suis allée, ils m'ont montré les chambres rénovées, etc. Donc, normalement, il y a 2 ans, il devait ouvrir déjà. Et puis, l'été dernier, il m'appelle. C'est bon, on va ouvrir, convoquer la commission de sécurité. Donc, je convoque. Broum, ils annulent tout. Et là, donc, juste avant que je parte, pareil, convoquer la commission de sécurité pour réouverture. Parce que, bon, on vérifie les normes incendies, tout ça. Et donc, la commission, elle a dû passer à ma connaissance, c'était le 30 juillet. Donc, j'étais plus maire. Et donc maintenant, ben, il devrait ouvrir, quoi. Hey, hey.
coup, l'ouverture là pour cette année 2020, elle est prévue quand ?
Les dates de réservation commencent à partir du 15 septembre.
Il y a combien de chambres qui vont ouvrir dans ce grand lieu ?
Alors, l'hôtel comporte 94 chambres. Et là, cette année, on fait une ouverture test, en fait, où on va ouvrir juste une vingtaine de chambres. Ça nous permet d'avoir beaucoup plus de retours, de comprendre les attentes des clients par rapport à leur expérience. Et justement, pendant la période d'hiver où l'hôtel est fermé, de retravailler les petits détails en fait améliorés pour que l'an prochain, on puisse ouvrir au mois d'avril à 100% et en ayant un hôtel dans les meilleures conditions.
Qu'est-ce qui fait que finalement cet hôtel réouvre ?
Il faut savoir que l'hôtel était fermé depuis 2004 quand même. Donc jusqu'au réachat par le groupe Dr Gestio et Poppins de l'hôtel, il a passé 10 ans. Donc il faut comprendre que 10 ans un hôtel qui n'est pas entretenu, il y a beaucoup de dégâts qui arrivent. Et ça prend déjà beaucoup de temps de chiffrer ces dégâts, après de tout remettre aux normes. Aussi de faire un hôtel moderne orienté vers l'avenir et avec tout ce qui est un aspect écologique. Donc tout ce qui est développement durable, essayer de faire les choses bien de ce côté-là. Donc oui, ça prend du temps, mais parce qu'on voulait être sûr d'avoir un beau produit à proposer.
Une des premières phrases qu'on lit sur le site de Dr Gestio, c'est « premier opérateur global de la santé, du médico-social et du tourisme social et familial en France ». Mais du coup, cet hôtel, comment est-ce qu'il se situe dans l'identité de Dr Gestio ? Quel est votre public cible en fait ?
D'accord. Alors, il faut savoir que Dr Gestio, c'est le groupe principal. Et en dessous de Dr Gestio, il y a différentes branches, dont Poppins. Poppins qui est la partie hôtelière du groupe. C'est-à-dire que là, on se dirige vraiment sur de l'hôtellerie pure et dure, comme des grands groupes style Hilton ou Accor, etc. à fond. Donc là, on est purement dans de la gestion hôtelière avec une clientèle... De tout âge, j'ai envie de dire. On peut viser la clientèle étrangère, comme la clientèle française, comme la famille qui a de la famille à deux filles, qui a besoin d'un hébergement. On est vraiment ouvert à tout type de clientèle à partir du moment où les gens sont satisfaits par les prestations et la qualité de l'hôtel et notre accueil. Nous, on est prêt à avoir tout le monde.
Club Med a fermé en 2004. Il est racheté en 2013 par la filiale Poppins du groupe Dr Gestio. L'hôtel Les Sources de Dieulefi ouvre en septembre 2020. Ce sont donc 16 années qui ont vu cet endroit vide et ses 94 chambres, sans activité aucune, mis à part les balades des Dieulefitois dans le parc. En France aujourd'hui, un demandeur d'asile sur deux n'a pas de place en centre d'accueil. Le mal-logement, pour les Français aussi, est une réalité ancrée profondément dans la société, documentée chaque année par de nombreuses associations, dont la Fondation Abbé Pierre. Les personnes sans domicile fixe sont des milliers, les lieux vides aussi. Réjobert n'est qu'un cas parmi tant d'autres, de bâtiments privés, en sommeil, appartenant à de grands groupes, dont j'ai du mal à comprendre la logique. Ces situations interrogent sur la notion de propriété privée, mise en confrontation avec celle de bien commun. Je m'interroge également sur le pouvoir du politique dans tout ça.
Still make cool.
Comment ça s'est pas fait ? Un documentaire de Chloé Peterman. Auteur associé, Mehdi Aoudig, pour Radiola. Merci à Jean Morin, Jean-Yves Brunier, Christine Priotto et Julien Muard d'avoir répondu à mes questions. Merci à Magali Chazot. Avec les musiques de la série Palace, le piano de Chili Gonzalez, le disco d'Abba, la house de XS Project et le morceau Kandahar, enregistré dans la jungle de Calais en 2016, extrait de l'album The Calais Sessions. I'm still making